Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, l'environnement c'est tout simplement le monde qui nous entoure et ce rapport au monde est dans de nombreuses cultures conditionné par les croyances religieuses. D'ailleurs régulièrement les autorités de toutes les religions appellent leurs fidèles à reconsidérer leur rapport à la nature. Récemment plus de 200 leaders religieux, chrétiens, musulmans, bouddhistes, juifs, sikhs et hindous ont exhorté leur communauté à se retirer des énergies fossiles et autres industries minières en argumentant que les dégâts qu'elles génèrent ne sont pas tenables éthiquement. Des vœux qui, si l'on en juge l'état du monde, sont pour l'instant restés pieux. Mais en parallèle de ces déclarations, heureusement il y a ceux qui privilégient l'action, comme vous allez l'entendre à travers deux reportages et une mobilisation dans cette émission. Les agriculteurs en colère font le siège de New Delhi depuis 2 mois, nous vous expliquerons pourquoi, et nous vous emmènerons un peu plus à l'ouest, dans le désert indien du Rajasthan, à la découverte des Bishnoi, un peuple qui défend l'environnement depuis plus de 500 ans. Puis nous irons en Thaïlande, où les moines bouddhistes du temple de Prasangkum, à 150 km à l'est de Bangkok, prêchent aussi l'écologie. Namasté, soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est une communauté qui a fait de l'écologie sa religion, et cela depuis 5 siècles. Les Bishnoi vivent au Rajasthan, à l'ouest de la capitale de l'Inde, New Delhi, à la porte du désert, dans un environnement très fragile. Ils ont donc appris à le respecter de manière stricte. Aujourd'hui, alors que l'urbanisation de la région accroît les défis écologiques, ils ont formé un nouveau mouvement pour défendre leurs principes. Sébastien Farcy, un de nos correspondants en Inde, est allé à leur rencontre.
Nous sommes en 1998. Salman Khan, qui est l'un des plus grands acteurs de Bollywood, est en tournage dans la région de Jodhpur, au Rajasthan. Lors d'un jour de pause, cet acteur part chasser dans les plaines désertiques de cette région et il abat, à coups de fusil, 2 black bucks, qui sont des antilopes noires protégées par la loi. Alors une telle star peut généralement s'en sortir en payant la police, mais pas de chance pour Salman Khan. Il se trouve alors sur la terre ancestrale des Bishnoi, et eux sont incorruptibles quand il s'agit de protéger l'environnement. Le garde forestier Sagar Bishnoi est le premier à arriver sur le lieu de ce braconnage.
C'était le 1er octobre 1998, très tard le soir. Salman Khan est venu avec d'autres acteurs et a abattu 2 cerfs noirs. Les villageois l'ont vu et ils ont couru après eux. En voyant cela, Salman Khan et les autres ont fui et laissé les animaux sur place. Les villageois nous ont appelés. J'étais de permanence dans le poste de police de cette zone et je suis arrivé le premier sur les lieux. On pouvait clairement voir l'impact des balles et le sang qui coulait. Le lendemain matin, une autopsie a été faite. Mais le docteur a conclu que c'était des chiens qui l'avaient mordu. Il était clair qu'ils avaient été payés pour dire ça. Nous avons donc protesté pendant 3 jours et nous avons obtenu une 2e autopsie avec 3 médecins. Et grâce à mon témoignage, cette nouvelle autopsie a conclu au braconnage.
Et du coup, ensuite, une enquête a été menée par la police et puis bien sûr par les avocats de la défense de Salman Khan.
Oui, c'est alors qu'ils ont tout essayé pour que je change ma déclaration. Ils m'ont appelé 75 fois pour témoigner. C'était une forme de harcèlement. Mais j'ai maintenu ma version. Les avocats de Salman Khan m'ont alors offert 10 millions de roupies, ce qui est une vraie fortune, mais je n'ai pas pris l'argent. C'est alors qu'ils m'ont dit que si je ne changeais pas ma déclaration, ils allaient me tuer.
Et pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas pris cet argent ? Pourquoi vous avez en fait pris tant de risques ?
Pour les Bishnoi, comme moi, il est impossible d'accepter l'argent du sang. Cela nous souillerait de couvrir ainsi un crime. Notre religion nous enseigne que toute vie est sacrée, y compris celle des animaux. C'est Dieu qui leur a donné cette vie. Alors qui sommes-nous, nous, pour la reprendre ? Ce combat était important et il doit servir de leçon pour les jeunes générations.
In our top story, Salman Khan will be spending the night in jail. He has been found guilty of killing black buck while on a film shoot in Rajasthan 20 years ago.
La persévérance de ce garde et de toute la communauté des Bishnoi en fait pendant cette affaire, elle a servi car au bout de 20 ans et d'un procès fleuve, Salman Khan a récemment été condamné à 5 ans de prison pour ce braconnage. D'un coup, c'est le pays entier qui découvre le visage de cette communauté des Bishnoi, de ces écologistes traditionnels qui sont prêts, on l'a vu, à tout pour défendre la nature de leur région. Et les défis sont nombreux car le Rajasthan, comme toute l'Inde, s'urbanise rapidement et les conflits entre les hommes et les animaux sont réguliers. Et cela, nous l'avons constaté lors de ce reportage. Nous circulons dans la périphérie de la ville de Jodhpur quand nous voyons un résident chasser des chiens errants pour secourir ce qui ressemble à une petite antilope bleue, une Nilgaya comme on l'appelle ici en Inde. Il y a un animal qui a été repéré, qui est blessé.
Nous sommes dans une colonie qui est à la frontière avec la forêt, et puis les résidents ont vu déjà une vingtaine d'animaux, des Nilgaya, qui passent tous les jours ici. Ah, et voilà.
Oh,
ben voilà. Elle était secourue. Ah, oui. Ah, et bon. Ah, ok. Donc il l'a secouru, il l'a mis dans son appartement, et puis maintenant ils essayent de voir si ce petit faon, en fait, c'est un faon, il est tout petit. How old is that? Quel âge il a? 10-15 jours. Oh, c'est vraiment un tout petit, quoi. Ah oui, il y a des chiens qui sont tout autour. These are street dogs, non, maybe?
Street dogs.
Ah oui, c'est des chiens errants qui attaquent les petits cerfs. Ils essaient de faire fuir, là. Ils font fuir les chiens errants parce que ça fait peur à l'animal, bien sûr.
My father just seen him. Okay. Over there only.
Mon père a vu ce faon là-bas. Les chiens étaient en train de mordre. Nous venons donc d'appeler les services des forêts.
Les gardes forestiers publics sont en effet arrivés plus tard et ont essayé de rendre ce faon à sa mère. Une opération difficile, hein, car même la mère antilope avait peur des chiens errants qui rôdaient et elle ne s'approchait pas de son enfant. Au bout de 20 minutes à les observer, nous sommes finalement repartis, laissant les gardes persévérer et essayer malgré tout de rendre cette petite antilope à sa mère. La situation est également compliquée, loin de cette grande ville, car il n'y a alors plus de services publics pour secourir les animaux blessés dans les accidents de la route ou dans les braconnages. Et c'est pour cela que cette communauté des Bishnoi s'est mobilisée et elle a formé un nouveau groupe d'action appelé la Bishnoi Tiger Force.
Nous sommes avec 5 ou 6 membres du Bishnoi Tiger Force qui en fait se répartissent chacun des zones de la région et qui alertent quand il y a des besoins.
Oui, nous nous répartissons ainsi tous les 20 km. Par exemple, mon équipe a reçu hier un appel d'un village situé à 3 km de chez moi pour nous dire qu'une gazelle avait été blessée. Nous avons donc dépêché des membres de la Bishnoi Tiger Force, avant même que les équipes de l'administration n'aient été informées. Puis nous avons été chercher l'animal pour l'emmener dans un des centres de secours de la zone.
Qui a eu l'idée de créer ce centre de secours ?
C'est moi. Je m'appelle Gevaram Bishnoi et je suis responsable du centre. On l'a ouvert car dans cette zone, on voyait beaucoup d'animaux blessés, comme des chiens renversés par des voitures ou des gazelles mordues par des chiens. Mais on ne trouvait pas de véhicule pour les envoyer dans les centres de secours de Jodhpur et ils mouraient souvent avant d'avoir des soins. Donc, on a voulu créer notre propre centre. Et maintenant, un docteur vient régulièrement ici pour les soigner. Nous avons commencé il y a 2 ans. Le gouvernement nous a offert cette terre et mis un garde à disposition de 10h à 18h. Pour le reste, c'est nous qui faisons le travail. Je travaille pour le centre pendant 5 à 6 heures par jour et 10 autres personnes sont également impliquées bénévolement.
Combien ça coûte de faire tourner un centre comme ça ?
Nous payons un garde supplémentaire 24 heures sur 24. Il y a aussi l'eau, le lait, les médicaments, les céréales, le foin. Tout cela nous coûte entre 45 et 55 000 roupies par mois.
55 000, ça fait environ 500 € par mois pour la communauté, pour s'occuper d'une vingtaine d'animaux, gazelles et antilopes à la fois. Vous avez combien d'animaux en général ?
Alors au début, il n'y en avait que 2. Mais cela monte maintenant à 40 ou 45 animaux. Car il n'y a pas que les gazelles ou les antilopes. Nous acceptons toutes sortes d'animaux qui sont en danger ou blessés.
Je ne peux pas manger le micro. Il donne du lait, il donne du lait aux faim. On avance dans ce centre de secours et je suis maintenant avec le président et le fondateur aussi de ce groupe du Bishnoi Tiger Force qui s'appelle Rampal Bavad Bishnoi. Nous rentrons dans l'enclos où il y a une vingtaine de gazelles et d'antilopes. Qui ont été secourus. Comment vous vous sentez quand vous êtes autour de ces animaux ?
Je me sens très proche de ces animaux et j'adore être avec eux, les nourrir, les regarder.
Se jette sur les graines.
Vous savez, nos femmes donnent parfois le sein aux bébés des gazelles quand elles n'ont plus de mère. Les femmes de notre communauté les considèrent comme leurs enfants. Si elles sont blessées, nous les nourrissons et les accueillons dans nos maisons pour les aider à vivre et grandir. Depuis des siècles, cela a toujours été notre combat. Et aujourd'hui, c'est encore plus important car le gouvernement s'accapare les terres forestières. Il faut donc créer des sanctuaires comme celui-ci.
Pendant qu'on parle, il se jette sur nous et sur les graines. Il est en train de les attraper naturellement. Il est en train de leur...
Black bug,
oui, bah oui. L'antilope.
Black bug. Mada black bug, il est mada.
Female. Ah, ça c'est une femelle antilope, la fameuse black bug. Le mâle avec les fameuses cornes qui ressemblent un peu à des boucles. On peut deviner souvent l'âge avec les anneaux autour des... Tinsal, 3 ans. Il devient de plus en plus noir, d'où la couleur, d'où le nom de black bug. Pour l'instant, il est encore un peu gris, brun foncé. Oh. Pas manger le micro. Et voilà, nous sommes au milieu d'une vingtaine d'antilopes et de gazelles qui mangent autour de nous. Il y a vraiment une interaction très, très belle. Savoir qu'on peut rester avec eux, qu'eux peuvent rester avec nous, ils n'ont plus peur en fait. On est dans le centre de secours. Une de ces antilopes a été amputée d'une jambe, mais bon. Elle survit très bien ici.
Oui.
Ouais.
Les Bishnoi ne défendent pas uniquement les animaux, ils protègent aussi les arbres de leur région et cela est très important car nous sommes ici à la porte du désert du Thar. Et quasiment aucune végétation n'arrive à survivre à cause de la chaleur et de l'aridité. Aucune en dehors d'un arbre, le kedjri, qui est une plante extrêmement robuste et qui est devenue donc essentielle pour l'équilibre écologique et environnemental de la région. Cet arbre protège des vents brûlants et ralentit la désertification. Il permet aussi de fixer l'azote dans le sol, ce qui le rend plus fertile. Et surtout, les animaux, comme les hommes, mangent les pois et les feuilles de cet arbre, ce qui représente une source rare d'alimentation végétale dans ce désert.
La vie serait donc bien difficile sans cette arme. Et c'est pour cela que les Bishnoi se sont toujours battus pour empêcher qu'on le coupe. Et ils vont parfois jusqu'à sacrifier leur propre vie pour cela. Et c'est ce qui est arrivé en 1730. Un roi local ordonne alors la taille de toute une forêt de Kedjri, mais la communauté des Bishnoi s'interpose et plus de 300 d'entre eux sont alors massacrés par l'armée dans ce combat écologique. Pour les Bishnoi, ce drame constitue un événement fondateur, une fierté de leur communauté et qui est célébré dans un lieu sacré. Les membres de la Bishnoi Tiger Force m'emmènent dans ce temple, dans ce lieu sacré pour leur communauté. Nous sommes toujours à bord de la vieille Jeep des années 60 de notre guide, celle qui nous permet d'avancer dans ce paysage désertique.
Voilà, nous arrivons dans le temple de 363, ce fameux temple des 363 martyrs, ces Bishnoi qui se sont sacrifiés pour sauver la forêt d'arbres Kedjri, des arbres qui résistent ici dans le désert, des arbres très importants pour les habitants et pour la communauté des Bishnoi. Et donc, en l'honneur de ce sacrifice pour empêcher qu'on abatte cette forêt, eh bien, on a élevé un temple. Les Bishnoi ont élevé un temple. C'était au XVIIIe siècle et encore aujourd'hui, eh bien, les Bishnoi honorent ces personnes, ces villageois, qui ont été menés par une femme, Amrita Devi. Il y a toute l'équipe, en fait, une bonne partie de l'équipe de la Bishnoi Tiger Force qui est avec nous. Et on arrive dans ce temple, une sorte de pèlerinage pour eux.
Sur cette peinture, vous voyez, c'est Amrita Devi et ses deux filles. Et là, c'est l'armée du roi. Elle a été envoyée pour couper la forêt d'arbres Kedjri. Mais Amrita Devi s'est interposée. Elle a été la première à donner sa vie pour ces arbres. Ensuite, 362 autres personnes se sont sacrifiées. Nous, les Bishnoi, considérons que ces arbres sont plus importants que notre propre vie. Quand le roi a appris ce sacrifice collectif pour les arbres, il a été décidé que plus aucun arbre ne serait coupé ici. Et cela a été gravé dans ce morceau de cuivre. Notre but est de protéger les arbres et la nature. Et nous ne permettrons à personne de les mettre en danger.
Pour les enfants aussi, pour les enfants Bishnoi, vous pensez que ça a aussi une résonance ?
Oui, nous enseignons cela à nos enfants. Il ne faut pas couper d'arbres et nous devons tout faire pour protéger les animaux sauvages. Ceci est la base de l'enseignement de tout enfant Bishnoi.
Ram Bhavad Bishnoi, vous êtes le président du Bishnoi Tiger Force. J'imagine que le sacrifice de Amrita Devi, son engagement pour l'environnement à l'époque, c'est une inspiration pour vous. Et aujourd'hui, dans votre combat, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans les règles et les lois sur l'environnement en Inde ?
Il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans une loi de 1955, il est établi que l'amende pour la coupe illégale d'un arbre est de 100 roupies. 100 roupies, cela fait à peine plus d'un dollar aujourd'hui. Ce n'est pas sérieux. L'amende devrait être au moins 300 fois plus élevée. Comme cela, les gens auraient peur de couper des arbres. C'est ce genre de choses qui nous a poussés à créer ce groupe. Avant, personne ne nous écoutait et la nature était détruite dans l'indifférence. Maintenant, nous avons un groupe de plusieurs milliers de personnes, nous organisons des manifestations, nous avons aussi des équipes qui luttent contre les braconniers. Du coup, les médias et les politiciens ont commencé à faire attention à nous. Et je pense que les Indiens se rendent aussi compte que la pollution des rivières et des sols est devenue dangereuse pour notre survie. Donc je suis content qu'enfin, le message ancestral de nos sages soit compris et que nous puissions travailler dans le même sens. Cela mettra du temps, mais il y a un réveil de la population.
C'est un réveil progressif, en effet, ce qui est un peu paradoxal, car l'Inde est bercée depuis des millénaires par une philosophie si proche de la nature, et sa médecine traditionnelle, l'Ayurveda, est elle-même basée sur les plantes. Mais ces bases écologiques ont été oubliées par beaucoup à cause de l'urbanisation forcenée des 5 dernières décennies. Alors aujourd'hui, c'est dans ce réveil que des communautés comme les Bishnoi montrent leur importance et que l'influence de ce groupe, de la Bishnoi Tiger Force, peut se faire sentir. Car en Inde, ce ne sont pas les grandes ONG nationales ou internationales qui mènent et remportent le combat environnemental. Ce sont les populations locales, celles qui sont les plus affectées par ces changements, comme les Bishnoi. Du nord au sud, on voit donc ces communautés traditionnelles qui manifestent contre les mines de charbon car elles entraînent la coupe de leurs forêts ancestrales ou contre l'ouverture d'usines chimiques. Ces mouvements se politisent ensuite et cela oblige les gouvernements à se positionner. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, le gouvernement du Jharkhand, le principal lieu de l'extraction du charbon en Inde, a annoncé qu'il n'autoriserait plus l'ouverture de nouvelles mines. C'est un changement radical et qui est source d'inspiration pour tous les écologistes indiens.
À la rencontre des Bishnoi, c'était un reportage de Sébastien Farcy, réalisé par François Porcheron. En ce temps-là, toujours en Inde, le Premier ministre Narendra Modi fait face au plus grand mouvement social de son histoire. Cela fait 2 mois que les fermiers affluent vers la capitale New Delhi pour crier leur mécontentement contre la libéralisation du secteur agricole. Alors pour comprendre la raison de cette colère, nous sommes en ligne avec Combastin. Bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI en Inde. Alors quel est le contenu de ces réformes agricoles et pourquoi provoquent-elles une telle colère ?
Alors ces réformes appelées Farm Bill comportent plusieurs volets, mais le principal c'est la possibilité pour les firmes privées d'acheter directement auprès des agriculteurs. Pour l'instant, une partie des transactions avait lieu dans des marchés publics appelés mandi qui prélèvent une commission. Et selon le gouvernement, se passer de ces intermédiaires, c'est donc plus de profits et aussi du temps gagné pour les agriculteurs, parce que parfois ces marchés sont éloignés des exploitations. Mais la grande peur, c'est que les géants de l'agroalimentaire s'arrogent le monopole des achats et dictent leurs prix. Il y a des exemples iconiques, notamment dans le Kerala, où les marchés publics sont inexistants. Dans les années 2000, des multinationales ont commencé à acheter le kilo de vanille à 4000 roupies. Beaucoup d'agriculteurs en Inde et aussi au Brésil ont sauté sur ces tarifs alléchants, mais du coup le prix est peu à peu tombé à 300 roupies, laissant tous ceux qui avaient réorienté leur production sur la paille. C'est la multiplication de ce genre de scénario que les manifestants redoutent.
Alors comme vous êtes à Bangalore mais vous revenez de New Delhi, à quoi ressemble ce rassemblement géant ?
C'est surprenant, je m'attendais à tomber sur une manifestation et en fait l'ambiance tient plus de la zone à défendre ou du festival. Comme la police interdit l'entrée dans New Delhi, les fermiers se sont carrément installés aux portes de la capitale et ça ressemble à une vraie ville autonome comme le décrit un organisateur.
On se trouve sur une importante autoroute de la ville, bloquée par les manifestants. On est à la frontière entre New Delhi, la capitale, et l'état de l'Haryana, qui est très agricole. Derrière les barricades de police, vous pouvez voir la principale scène où ont lieu les discours. Il y a aussi des cantines communautaires tenues par les fermiers, qui sont venus avec 6 mois de réserve de nourriture. En remontant le long de l'autoroute, vous trouverez aussi beaucoup de dortoirs pour les manifestants.
Alors c'est très dur de compter les manifestants qui sont répartis sur plusieurs autoroutes, mais on parle sûrement de centaines de milliers. L'ambiance est joyeusement révolutionnaire, mais derrière il y a aussi une triste réalité. En ce moment, les températures se rapprochent de zéro autour de New Delhi. Des dizaines d'agriculteurs sont déjà morts de froid sur les routes.
Et comment est-ce que le gouvernement réagit ?
Il y a eu des tas de discussions avec le pouvoir, mais aucune n'a abouti. Le gouvernement affirme que les fermiers sont manipulés par l'opposition et violents. De leur côté, les fermiers sont déterminés à ne rien lâcher avant le retrait pur et simple des lois. C'est ce que m'a raconté un gréviste de la faim.
Mon grand-père est mort après 74 jours de grève de la faim. Aujourd'hui, le gouvernement de Narendra Modi veut nous condamner à mort. Alors, depuis 10 jours, j'ai moi aussi cessé de m'alimenter et de boire. Comme les 6 camarades avocats qui sont à côté de moi.
Mardi, la Cour suprême indienne a demandé au gouvernement de mettre ses lois en pause, mais cela n'a pas fait bouger les fermiers qui craignent que ce soit une stratégie pour briser le mouvement et mieux passer en force plus tard.
C'est donc une situation de blocage au sens propre comme au sens figuré. Alors, quelle issue peut-on entrevoir à cette crise ?
La grande question, ça va être de savoir jusqu'où la colère des fermiers s'étend. Pour l'instant, ce sont surtout les paysans sikhs, reconnaissables à leur longue barbe et leur turban, qui mènent la contestation. Ils viennent des états voisins de l'Haryana et du Punjab, qui sont les greniers à blé et riz de l'Inde depuis la révolution verte engagée dans les années 60. Ce sont ces états qui bénéficient principalement des prix garantis par les marchés publics. Mais ce sont aussi des états à bout de souffle sur le plan écologique. Les sols sont sans vie, les nappes phréatiques s'épuisent, les eaux sont polluées par les nitrates, les pesticides et les agriculteurs endettés par des intrants et des semences industrielles qui sont pourtant subventionnées. Donc la crise économique et écologique du modèle agricole indien ne date pas de ces lois. En 2019, plus de 10 000 se sont donné la mort, souvent sous le poids des dettes. C'est un peu le paradoxe, les réformes libérales suscitent des craintes légitimes, mais le modèle actuel ne peut plus perdurer. Il y a urgence à proposer une alternative. Par exemple, étendre les prix garantis à tous les fruits et légumes, ça permettrait à d'autres cultures d'être plus rentables, et donc de sortir de la monoculture chimique du blé et du riz. Ces demandes commencent à être désormais portées par les manifestants et d'autres États et organisations agricoles se joignent peu à peu à la lutte.
Merci Com Bastin.
Merci.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous continuons notre voyage en Asie à mi-distance entre l'Inde et la Chine. La Thaïlande a connu une forte expansion économique depuis les années 80. Le tourisme et l'agriculture notamment ont sorti le pays de la pauvreté, mais au prix d'une forte dégradation de l'environnement. En moins d'une génération, le pays a perdu presque la moitié de ses forêts. Face à ce constat, les moines bouddhistes du temple de Prasangkum à Mabuang dans la province de Chonburi ont décidé de réagir. À 150 km de Bangkok, ils ont fondé autour de leur temple et de leur pagode une école, des parcelles agricoles et un festival pour sensibiliser la population à la préservation de l'environnement. Une activité qui ne plaît pas aux autorités, mais dans un pays à 90% bouddhiste, ils sont pour l'instant protégés. Julien Trembouze est allé les rencontrer.
Vous avez vu comme c'est harmonieux ? Il y a beaucoup d'arbres, plein de légumes, plein de fruits. C'est ce qu'on appelle l'harmonie choisie. Et elle est décidée par la biosphère. Je vais vous expliquer tout cela dans le temple. Là, on sort du village communautaire et on va vers le temple. Notre temple est par là. Ici, sur la droite, c'est la communauté. On l'appelle l'éco-village. Ok, on est arrivé. Voici mon temple.
Donc là, on est juste devant le temple, une sorte de petite éolienne au sommet. Vous avez fabriqué ici votre paradis.
Oui, nous avons fabriqué un paradis.
This adobe house.
Ici, c'est ce qu'on appelle des maisons en briques d'adobe. Ce sont les moines qui les ont construites. Et aujourd'hui, ils y vivent. C'est un système très aéré. Il n'y a pas d'air conditionné. On garde le frais grâce à ce système naturel. Nous ne voulons pas détruire notre environnement, vous voyez ? Cette année, il fait très chaud et le niveau de l'eau est vraiment bas. D'habitude, il y a de l'eau jusqu'en haut de la cabane. Vous voyez dans la pagode, grâce à la circulation de l'air, c'est frais et harmonieux.
Vous pouvez me dire où est-ce qu'on se trouve ?
Vous êtes ici dans un temple écologique. Nous nous appelons la fondation agricole Mab Eung. Nous avons beaucoup de fruits, de bananes, beaucoup de légumes, de la nature, des oiseaux. Oui, on est autosuffisant.
Vous avez tout planté ici?
Oui, on a tout planté nous-mêmes.
La pagode a une forme assez particulière.
On a eu l'idée grâce à ce qu'on appelle le Sanchi. Sanchi, c'est l'ancienne forme circulaire des temples indiens à l'époque du Bouddha.
C'était difficile de convaincre les gens de construire un endroit comme celui-ci, ici?
Le leader spirituel de la communauté doit avoir l'idée en premier. D'habitude, l'atmosphère des temples ne ressemble pas du tout au mien. Regardez les bananes. Ça, ce sont des légumes. On peut manger directement sur l'arbre. Regardez ces légumes. Tout est comestible autour de nous. Et à partir de là, c'est plus simple pour nous d'expliquer notre démarche aux gens, aux enfants.
Really delicious.
C'est vraiment délicieux.
C'est bon.
Yeah.
Je le garde.
This one, if you want to
celui-là,
eat,
si vous voulez le manger, il faut le peler, ok?
Now we're going to see.
Maintenant, je vous emmène à l'intérieur de la pagode.
De surprendre un... J'ai l'impression que c'était comme une petite hirondelle.
Oui, les oiseaux nichent ici.
They live here with their family.
Avec leur famille.
The bird. This is we call the Earth Power Buddha.
C'est ce que l'on appelle ici le super Bouddha de la terre.
Ramanai. We get the soil from him.
La terre nous a été offerte par le roi Ramana IX avant son décès.
Beautiful of
statue. Et nous avons sculpté une grande statue à l'image du Bouddha.
Comment vous êtes devenu un moine écologiste?
Eco-monk, yeah, because...
Moine écologiste? Oui, parce que je me sens responsable spirituellement. Je vois bien que les gens tirent avantage de notre terre et la détruisent. Ils ne prennent pas soin de Mère Nature. Ils mettent du poison et des produits chimiques dans les sols. Mère Nature est malade. C'est comme quand ma mère l'était à la fin de sa vie avec son cancer. Ce sont les produits chimiques qui l'ont tuée à petit feu. C'est pourquoi, quand je suis devenu moine, je me suis dit que l'esprit, l'harmonie,
along the same
et la terre doit fonctionner ensemble avec l'économie, l'agriculture. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour Mère Nature.
Very humble to do this.
Beaucoup d'humilité à accomplir cette mission.
Entendez, c'est le rituel très matinal des offrandes faites aux moines. Alors, on donne des œufs, du riz, des biscuits, des fruits.
This morning we have the arms around.
Ce matin, nous faisons ce que nous appelons les embrassades. Les embrassades, cela signifie que nous donnons la possibilité aux gens de nous offrir à manger, et en échange, nous leur offrons du mérite. Nous, les bouddhistes, nous croyons au gamma. Si vous offrez à manger aux moines, vous allez obtenir de la chance pour vous et pour votre famille. C'est pour ça que tous les matins, les moines sortent faire les embrassades.
Revenir de la marche. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est le chant qui vient bénir, qui met les offrandes qui ont été faites aux moines. Maintenant, c'est le moment du petit déjeuner des moines qui ont mangé que deux fois.
Voilà, c'est un peu l'ambiance ici, durant tout ce week-end, à côté du temple de Prasampum, où on retrouve aussi une école et la fondation AgriNature qui rassemble aujourd'hui et pendant plusieurs jours plusieurs ONG qui viennent présenter leur projet de développement durable. Et parmi les projets que j'ai trouvé, il y a ce projet d'irrigation et de comment gérer l'érosion des sols.
Hello, my name is Tang.
Bonjour, je m'appelle Tang, je suis de Bangkok, mais maintenant j'habite ici à la fondation agricole Mabung.
Donc là on se trouve à quelques centaines de mètres du temple, et juste en face de nous une sorte de monticule qui a été complètement créé avec une réserve d'eau.
This is how we doing our water management.
C'est comme ça que nous gérons notre eau. Toute cette zone est notre centre d'accueil. Et quand les gens restent ici, ils ont besoin de se laver, d'aller aux toilettes. Nous avons besoin de plus d'eau. Donc, nous avons construit cette réserve d'eau en mélangeant le savoir-faire local et les sciences d'aujourd'hui. C'est du bambou à l'intérieur, du bambou tressé comme un immense panier.
Ça, c'est reproductible dans tous les villages de Thaïlande et c'est surtout pas cher, c'est avec le bambou, donc ça veut dire c'est avec les matériaux qu'on trouve sur place.
Oui, on trouve tout localement, ça ne coûte rien. Et c'est ce que nous enseignons ici aux étudiants quand ils viennent en stage. C'est inspiré par les paroles du roi Ramanuf. Fais-le comme un homme pauvre, fais-le comme un homme pauvre pour être autosuffisant. Sois autonome par rapport aux autres, fais un don aux autres. Donc, on utilise ce que l'on a, le bambou, la terre, et on les mélange.
Nous ne croyons pas au système éducatif du gouvernement. Nous ne croyons pas non plus à l'éducation mondiale en général. Ils reproduisent un système éducatif qui fait des jeunes générations des esclaves de l'argent. Quand ils ont fini l'université, ils vont directement travailler pour une entreprise, pour l'État ou autre chose, mais jamais ils ne reviennent pour travailler dans leur communauté ou bien pour leur village et aider leurs prochains. On n'apprend jamais ça à l'école ou à l'université. L'école n'apprend pas aux enfants à respecter la vie sur Terre, d'avoir de la compassion pour sa famille. Elle apprend juste aux enfants à vivre dans un monde industriel et consumériste. L'argent est comme un dieu. Mais en tout cas, ce n'est pas mon idée. Ce ne sont pas nos idées.
Ils apprennent une agriculture raisonnée, une agriculture durable, une agriculture biologique dans votre école?
Yes, that's the theme of education is mean.
C'est ce qu'on apprend aux élèves. C'est-à-dire qu'ils apprennent à planter.
They learn how to make their own.
Ils apprennent quels sont leurs devoirs.
They learn how to.
Ils apprennent comment survivre.
You know, they learn how to
comment
cook.
Cuisiner,
they learn how to plant.
Élever des poissons.
They learn how to raise the fish. They learn on those as
ceci dans un principe d'économie suffisante, comme une ligne de conduite.
Est-ce que la pensée bouddhiste a changé avec le changement climatique?
Non,
la spiritualité, l'esprit de l'enseignement bouddhiste est toujours le même. Il y a eu peu de changements avec le changement climatique. Peu de gens se préoccupent de ce sujet. Et même s'ils se sentent concernés, ils ne font rien, aucune action. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme leader des moines de ce temple, je m'inquiète du changement climatique. Ça me préoccupe beaucoup. Je dois utiliser mon savoir pour innover, construire les bâtiments, les rafraîchir. Et que tout cela soit harmonieux, bon pour notre méditation. J'aide ici les jeunes moines et les jeunes générations. Ils doivent apprendre à combattre le réchauffement climatique, à essayer de réduire les désastres liés à ce changement. En même temps, nous nous préparons à nous défendre, car à cause du changement climatique, Cela va devenir difficile de faire pousser notre nourriture. Mais on doit apprendre à survivre avec ce problème.
Les activistes de l'environnement comme vous, les moines bouddhistes, sont à la fois très écoutés, parce que 90% de la population thaï est bouddhiste et pratiquante, mais vous êtes aussi menacés.
Oh yeah, some.
Ah oui,
in the south,
dans le sud,
the south of Thailand,
dans le sud de la Thaïlande,
some people,
il y a des gens très
very
agressifs
and very
et très en colère
when we told them
quand on leur dit de ne pas toucher à la forêt.
But clear-cut the forest.
Ils nous disent, les coupes
it's
en forêt, ce n'est pas votre affaire.
It's not the monk business.
Ce n'est pas l'affaire des moines.
You see?
Vous voyez,
even though we see
même si on sait qu'ils trichent, qu'ils ne respectent aucune loi, ils coupent les arbres et on ne peut pas défendre la forêt.
Pour protéger la forêt, les moines ont ordonné des arbres, c'est-à-dire que les arbres sont devenus des moines. Ça a été une réaction extrêmement importante et suivie.
People in Thailand, they respect.
Les gens en Thaïlande respectent les moines bouddhistes.
Their custom, when they saw the
la coutume veut que lorsqu'on voit un moine ordonner un arbre,
they don't want to
eh bien,
cut
on ne le coupe pas.
They don't want to deforest.
On ne peut plus toucher à la forêt.
But some people didn't
mais
care.
Certaines personnes s'en foutent.
How much we ordain the
vous savez,
the trees.
On a beau rendre sacré les arbres, ce n'est pas une solution pour préserver la forêt.
But the most important is you have to make the people.
Le plus important est d'apprendre aux gens à survivre
and live with the tree
et vivre avec les arbres en harmonie.
Not ordain the tree.
Pas ordonner les arbres.
Ordain the people.
Ordonner les gens.
Ordain the people means
ça veut dire leur donner de l'éducation.
That's why today I'm going to show you.
C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer les bons projets, ceux qui suivent les idées du roi Rama IX.
We call sufficiency economy.
On appelle cela l'économie de suffisance.
The new theory.
Ce sont de nouvelles théories. Nous divisons le terrain de la sorte.
Like 30% we have to have water.
30% d'eau.
And 30% we have to have the rice.
30% de rizière, ce que nous mangeons.
The 30% plant the tree and find the
30% pour planter les arbres et les légumes et 10% pour construire un abri.
That means 100% not just monocrop.
Ce qui donne 100% non pas de monoculture mais d'écologie.
Like an Eden.
Comme un Éden.
Exemple de production très différent sur tout le site. Il y a même une sorte de ferme sur l'eau. Et son propriétaire qui me sourit depuis tout à l'heure, je vais aller le voir, discuter un petit peu. Donc là, on est sur une sorte de petit ponton au milieu d'un lac. Et sur ce lac, il y a des espaces qui ont été plantés.
C'est un modèle pour les gens qui vivent près d'une rivière ou d'un canal, qui n'ont plus assez de terre pour cultiver à cause de la montée des eaux. Alors, comment faire pour survivre ? Ils peuvent faire une structure flottante en bambou, comme celle que nous voyons, une maison et un jardin qui flottent. À partir de cette structure, on peut planter directement dans les bacs flottants. Ici, des piments, là, des tomates thaï, des haricots rouges, du basilic. Nous nourrissons aussi des grenouilles. Les Thaïlandais mangent des grenouilles. Vous les voyez là. Il y en a une grosse ici.
Ah oui, il y a des grenouilles. Et les grenouilles mangent les insectes.
C'est vrai, les grenouilles mangent les insectes. Le soir, on rajoute même des lumières pour attirer les insectes et qu'ils soient mangés par les grenouilles. Je m'appelle Kirk.
Captain Kirk?
Not Captain Kirk, Copan.
Non, pas Captain Kirk, Copan. Je travaillais dans le temps dans l'industrie chimique, dans la recherche. Pour les usines Samsung et iPhone. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Ça a changé ma vie de devenir un fermier maintenant. Je dois survivre par moi-même.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'un monde où vous travaillez dans l'industrie chimique polluante à un monde où c'est le développement durable ?
Le déclencheur, c'est que j'ai vu une multitude de crises en Thaïlande. Il y a eu la crise financière il y a 20 ans et maintenant la crise migratoire. Et puis j'ai vu de très grosses entreprises faire faillite et les gens perdre tout ce qu'ils avaient. Par contre, ceux qui ont leur terre peuvent cultiver, nourrir les animaux et survivre par eux-mêmes.
Just for example.
Par exemple, si vous laissez votre argent dans une banque pour 20 ans, avec 1 million de bahts, soit 28 000 euros, à votre avis, combien d'intérêts vous allez toucher ? 1 million pendant 20 ans ? Combien ? En vous donnant 10% d'intérêt par an, ça fait 2 millions en 20 ans, ok. Maintenant, si vous achetez des arbres pour 10 bahts l'unité, 30 centimes d'euros, et que vous en plantez 10 000 par hectare, après 20 ans, les 10 bahts se transforment en 15 000 bahts, soit 420
euros.
C'est un investissement à long terme. En plus, vous créez de l'oxygène et vous faites baisser la température de la planète. Pourquoi ne pas faire pousser plus d'arbres ? Pourquoi ne pas verdir notre terre ? Maintenant, on essaye de réparer la terre avec le bio, les micro-organismes, comme sur mon terrain.
C'est l'enseignement du bouddhisme. Nous devons accepter le gamma. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. On ne peut même pas prédire le futur. Mais il faut vivre avec le moment présent, le mieux possible. Bien penser, bien parler et faire le bien. C'est la voie de l'enseignement bouddhiste.
Speak good and doing good
si
in
vous
this
faites
life,
tout ça dans cette vie, votre prochaine vie sera bonne. Le gamma signifie réaction.
Un reportage de Julien Trembouze, réalisé par François Porcheron. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez échanger avec nous et suivre l'actualité de l'environnement sur les réseaux sociaux et nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.